vue d'ensemble de l'actualité.
You gotta get your governor to open up your state, okay? Lock them all up.
Donald Trump, en fin de semaine au Michigan, il y a 4 ans, il disait « lock her up » en parlant de Hillary Clinton, « mettez-la en prison ». Et puis là, ben il a dit la même chose à propos de la gouverneure du Michigan. Là. C'est celle-là qui a failli être victime d'un enlèvement là, par les milices d'extrême droite. Là. Alors là, il était avec sa gang, là, puis il disait « mettez-les toutes en prison ». Luc Lavoie est là. Bonjour, bonjour mon Luc.
Bonjour.
Et Valérie Beaudoin, évidemment, notre spécialiste de la politique américaine qui est associée à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Valérie.
Bonjour à vous deux.
D'abord, parle-nous de ces rassemblements de la fin de semaine, là, s'il te plaît.
Oui, bon, il y a eu des rassemblements au Wisconsin, au Michigan, et vraiment, là, c'est un feu roulant, je dirais, de rallye politique pour le président Trump. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en forme et qu'il s'est remis de la COVID-19, du moins de ce qu'on voit de ses apparitions.
Wisconsin, Michigan, ce sont les États qui lui ont permis de gagner la présidence, oui, il y a 4 ans, hein, faut le rappeler.
Exactement, des États qui étaient normalement démocrates, qui ont viré, comme on dit, au rouge, qui sont devenus républicains, qu'on veut reprendre du côté des démocrates. Donc vraiment, il y a été de la même rhétorique, un peu de se moquer de ses adversaires politiques, de dire que la pandémie allait bientôt se régler. Vraiment le même discours, et on s'est posé la question, il y a plusieurs observateurs qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité justement d'avoir été atteint de la COVID-19 pour changer de ton, pour montrer un côté peut-être plus empathique, un côté de quelqu'un qui a vécu ça. Mais non, au contraire, il continue vraiment avec le même ton qui est dans l'attaque, dans la confrontation. Est-ce que c'est pour soulever ses troupes, s'assurer qu'ils aillent voter le 3 novembre? Ça, je crois que c'est oui, c'est l'objectif principal, mais c'est pas d'avoir des nouveaux électeurs. Je pense pas que ce soit la bonne stratégie pour rassurer des électeurs indépendants qui pourraient pencher pour Joe Biden. Donc ça, c'est ce qu'il fait en fin de semaine. Et là, il continue dans des États qui sont majoritairement rouges. Sont républicains, exactement.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, il fait campagne dans des États, oui, républicains. Donc, ça laisse entendre qu'il pourrait être menacé dans ces États-là, qu'il pourrait donc voter démocrate. C'est ça, c'est le signal que ça envoie.
Oui, je pensais jamais dans une élection dire que le Texas et la Géorgie pourraient passer au bleu, donc aux démocrates, mais c'est le cas quand même. Dans les sondages, il y a une avance du président Trump. On parle de 2 points ou 3 points d'avance quand même. On est loin d'une avance habituelle.
Luc.
Écoute, il a continué sur le même ton ce matin. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, Bernard. Il s'en est pris au docteur Anthony Fauci, qui est très, très respecté, comme tu sais, leur expert en épidémiologie. Il dit « Les gens en ont marre de ça. Laissez-nous tranquilles, les gens en ont marre. Marre d'entendre Fauci et tous ces idiots. »
Oui, on en a marre d'entendre parler de la COVID, dans le fond. C'est ça
qu'il
dit.
Il est là depuis 500 ans, encore ironisé le président américain. C'est vrai qu'il a 79 ans. Si nous l'avions écouté, nous aurions eu 700 000 ou 800 000 morts, a-t-il encore dit. Écoute, ça, et je pense que, je ne sais pas si tu voulais l'aborder, Bernard, mais... La question de Hunter Biden,
oui, oui,
et de la job de bras qu'on a essayé de lui faire,
vas-y,
qui est en train de tourner contre eux.
Vas-y, vas-y. Parle-nous de ça. Là.
Hunter Biden, c'est le fils de Joe Biden. C'est un gars qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, des problèmes de dépendance à l'alcool, à la drogue. Et on voyait que son père essayait de l'aider. Ben, à un moment donné, il s'est retrouvé sur le conseil d'une entreprise énergétique de l'Ukraine. Et là, on prétend qu'il y aurait eu de la corruption, patati patata. Et là, ça fait longtemps qu'ils traînent cette histoire-là, les républicains. Et soudainement, ça sort dans le New York Post. Le New York Post, c'est le tabloïd qui appartient à Rupert Murdoch, qui possède aussi Fox News. Et le New York Post a pris ses renseignements des mains de Giuliani. Rudy Giuliani, à propos de qui les services de renseignement américains ont dit « Nous soupçonnons qu'il est un agent à la solde des Russes ». Alors, cette information-là s'est retrouvée dans le New York Post, a créé une commotion au sein de la salle de rédaction du New York Post. La plupart des journalistes ont refusé d'y apposer leur signature, même que l'article en question portait la signature d'une femme qui n'avait jamais signé un article dans le journal, était en fait responsable de la coordination numérique.
Alors, ouais, c'est mais Luc, raconte ce qu'il y a dans cet échange-là, parce que pour comprendre
ben, dans
pourquoi
cet échange-là,
c'est épouvantable, là. C'est épouvantable.
Ben, en fait, ce qui brise le cœur, c'est qu'à un moment donné, un des échanges t'as Monsieur Biden, qui était vice-président à l'époque, qui écrit à son fils, lui écrit « Je sais que je suis un échec dans la vie et je suis une honte pour ma famille ». Et ça, c'est la veuve de son frère Beau, qui est décédé il y a quelques années, qui lui aurait dit ça. Et là, t'as le président qui lui répond « Non, pense pas comme ça, on est toujours là, je t'aime ».
Parce qu'il est en cure de désintox à ce moment-là, le garçon.
Il est en cure de désintoxication.
Il est au creux du creux, puis il dit « Dans le fond, je le sais que je vous fais honte, puis je t'inloue. » Loser, et son père dit « Non, on t'aime, puis là, je suis pas mon gars. » Puis là, le New York Post publie ça, puis honnêtement, tu regardes ça, puis tu te dis « C'est indécent. »
C'est indécent parce que, tu sais, Joe Biden, là, ça fait partie de son histoire. Quand il a commencé sa carrière politique, son épouse est décédée avec sa petite-fille qui avait 2 ou 3 ans. Son fils, Beau Biden, qui était vraiment l'as de la famille, il était devenu procureur général de l'État du Delaware. On le voyait comme quelqu'un qui avait des grandes visées politiques. Il avait également servi en Irak pendant la guerre. Et il est mort d'un cancer au cerveau. Alors là, Joe Biden, on décide de l'attaquer comment? En attaquant sa famille. Il y a quelque chose de tellement cheap dans ça, c'est incroyable.
Valérie.
Je pense qu'ils ont voulu essayer de faire pas le même scandale, mais vraiment, on est proche de l'élection, on est au mois d'octobre, et il y a 4 ans, on est encore plus loin dans le scandale des courriels d'Hillary Clinton, si on se rappelle bien, et ça avait fait mal, et ça avait été repris par pas seulement les médias de droite ou des médias comme le New York Post ou Fox News, on en avait parlé dans les médias plus importants, et là, on voit que ça n'a pas le même effet. Le scandale, est justement, et Luc l'a bien illustré, est autour de, est-ce qu'on aurait dû publier ça? Est-ce que le New York Post a vérifié les informations? C'est quoi le fameux disque dur? Parce que tout ça part d'un ordinateur qu'Hunter Biden aurait donné dans un commerce pour le faire réparer et que la personne aurait vendu finalement des renseignements copiés. Mais est-ce que c'est véritablement des vrais courriels, des vrais messages? Alors, je voudrais que le scandale finalement est plus sur est-ce qu'on a bien utilisé les sources journalistiques que finalement, est-ce qu'il y a vraiment un véritable scandale avec la famille de Joe Biden?
Mais ça n'a pas été
mais c'est là qu'on voit la dynamique de la politique américaine. Oui. Hein? Prenez un soir puis regardez pendant 2 heures Fox News. Vous allez comprendre que les gens qui sont littéralement scotchés à l'écran de Fox News du matin au soir n'ont pas du tout la même information que ce qu'on est en train de donner. Eux autres sont sûrs qu'il y a un scandale épouvantable. Il y en a même qui parlent d'une famille de criminels parlant de Biden et tout. Alors, tout ça, ça donne une idée de ce qui se passe dans la dynamique politique américaine. Les gens n'ont même pas les mêmes renseignements sur lesquels se baser pour se faire une opinion.
Je sais pas si vous avez vu, mais c'est sorti là, dans la dernière heure à peu près là, que Fox aurait refusé l'histoire lorsque Giuliani l'avait proposé parce qu'il n'était pas capable de vérifier les sources. Donc, Fox aurait passé leur tour. C'est le New York Post qui aurait finalement publié l'affaire. Et là, Fox surfe un peu sur la vague parce que ça a été publié par un autre média qui, publie peut-être le même genre de choses. Donc, on surfe là-dessus. Mais après ma barre, on aurait refusé de publier ça justement parce qu'on avait peur de la crédibilité des sources entourant ça. Parce qu'il n'y a pas juste des textos.
Parce qu'on n'était pas certain que les échanges étaient authentiques. Les échanges les supposés échanges entre le fils et Joe Biden.
Ils n'ont aucune preuve que c'est authentique. Aucune.
Mais ça n'a pas été nié encore. Camp Biden n'est pas sorti pour dire c'est faux, là.
Biden ignore l'affaire, puis je pense que c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux.
Oui, Biden ne veut pas commenter, puis au-delà des textos entre le père et le fils, il y a aussi d'autres courriels qui disent que finalement le fils aurait reçu de l'argent pour organiser une rencontre entre des PDG justement de compagnies énergétiques avec le vice-président Joe Biden. Donc il y a un côté aussi politique à l'affaire, pas juste personnel, et c'est vraiment là-dessus qu'on veut surfer.
Parle-nous en terminant là du sondage Gallup. Vas-y, Valérie.
Alors, le sondage Gallup, c'est une firme que vous avez peut-être déjà entendue. C'est assez crédible aux États-Unis. Et
Déjà été très crédible ici au Canada aussi.
Oui. Exactement. Alors, ils font un sondage à chaque année à savoir est-ce que cette élection-là est plus importante pour vous que les élections précédentes. Et je voulais en parler parce qu'on entend toujours, autant Joe Biden que Donald Trump, dire que c'est l'élection la plus importante de l'histoire. Et là, il se trouve que oui, il y a une grande majorité des Américains qui disent dans leur vécu, c'est le résultat électoral qui est le plus important. Quand même, à 77%, on dit que cette élection-là compte plus que toutes les autres auparavant. Une majorité de démocrates, 85%, mais quand même énormément de républicains qui sont aussi d'accord avec ça. C'est pour vous démontrer à quel point c'est pour ça qu'il y a cet engouement. Les gens vont voter par anticipation et qu'on s'intéresse beaucoup à cette élection-là. Ça ne veut rien dire au niveau des résultats, mais ça veut dire que c'est important et ça démontre à quel point peut-être les gens sont polarisés et se disent le résultat va avoir un impact direct sur ma vie comme Américain, dépendamment de qui est élu à la fin de tout ça.
En terminant, Luc, ça risque de... Ce sentiment que l'élection est très importante risque d'inciter les gens à aller voter. Puis ce qu'on observe actuellement, c'est que ça va voter.
Ben là, c'est plus de 20 millions d'Américains qui ont déjà voté. Puis écoute, il y a des gens qui vont entendre 10 heures puis 11 heures de temps parce qu'évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'empêcher les gens de voter parce que Trump et sa gang ont compris que plus il va y avoir de participation, plus ils sont en danger.
Voilà. OK. Ben on continue à surveiller ça. Hein. On a pris un engagement auprès des auditeurs qu'on allait suivre la politique américaine jusqu'au vote et puis même après, parce que ça risque de... Peu importe le résultat, il risque d'y avoir de grandes transformations. Luc Lavoie et Valérie Beaudoin, merci à vous deux.
Merci.
À demain, Bernard.
À demain, Luc. On s'en va à la pause. Au retour, on va vous parler d'une éclosion de COVID à l'Institut de cardiologie de Québec. C'est quelque chose.